Chers amis, bonjour. Je suis arrivé un peu tard, je n'ai pas eu l'occasion de vous saluer, mais je suis vraiment heureux de vous voir tous avec le sourire dans la présence du Seigneur. On est tellement bien. J'ai à cœur de partager un sujet que j'ai déjà abordé avec certains en partie, mais qui me tient fort à cœur parce qu'il est important. Parce que souvent, lorsque nous parlons avec les uns les autres, il y a encore des interrogations à ce sujet. Qu'est-ce qui nous détermine? Pourquoi sommes-nous la personne que nous sommes? Comment en sommes-nous arrivés là? Sommes-nous entièrement déterminés par notre passé? Sommes-nous déterminés par ce que nous avons vécu, par nos expériences? Sommes-nous déterminés par nos ancêtres, par notre passé? Est-ce que c'est une fatalité à laquelle personne ne peut rien changer? Certains disent que même Dieu n'y peut rien. Alors c'est un sujet très important et je voulais donc vous parler un peu au sujet de malédiction et de l'hérédité. Alors, que dit Larousse pour le mot hérédité? C'est une transmission des caractères génétiques d'une génération aux suivantes et d'une façon générale, l'ensemble des caractères transmis des parents aux enfants. Alors, c'est vrai qu'on parle aussi souvent de malédiction. Il y a des malédictions dans les familles. On a parlé de la malédiction de la famille Kennedy, par exemple. Il y a cette fameuse malédiction du pharaon qui a fait couler beaucoup d'encre depuis 1924. C'est-à-dire tous ceux qui ont participé à la découverte du tombeau de Toutankhamon sont décédés en quelques mois. Et jusqu'à 30 personnes. Et après des recherches approfondies, on a finalement attribué cela à des moisissures mortelles dans la tombe. Certaines personnes pensent qu'ils sont victimes d'un mauvais sort qui va les poursuivre toute la vie. Certains croient aussi qu'il y a des malédictions dans les signes astrologiques. Alors, la science distingue entre des caractères génétiques, c'est-à-dire qui sont transmis par les gènes, comme par exemple des maladies génétiques, et des caractères phénotypiques, c'est-à-dire qui sont transmis par l'éducation, par le milieu, par les traditions, par nos habitudes, par notre expérience. Alors, les études récentes sur les gènes montrent que beaucoup de caractères qu'on croyait acquis par le milieu ou par notre nourriture, notre façon de vivre, sont en réalité acquis par la génétique. Il existerait des gènes responsables pour certaines déviations, comme par exemple des déviations sexuelles, pour la criminalité, tendances suicidaires, et même certaines maladies seraient d'origine génétique. Donc l'importance de l'hérédité, on ne peut pas nier, c'est important. Et nous voyons que dans la Bible, on parle beaucoup de l'hérédité. Il y a tout d'abord l'importance des généalogies. C'est vraiment surprenant de lire dans la Bible de longues généalogies. Tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, on lit des généalogies. Et par exemple, il y a deux généalogies pour Jésus-Christ. Par exemple, dans Matthieu 1, nous avons une généalogie complète de Jésus par Joseph à partir d'Abraham. Et tout le monde est toujours étonné de lire la généalogie de Luc, Luc 3, qui est tout à fait différente, parce que c'est la généalogie par Marie et qui remonte jusqu'à Adam. Mais ce qui est étonnant, c'est que tous les deux passent par David. C'est pourquoi Jésus fut appelé fils de David. Il est l'accomplissement de la promesse faite à David par Dieu quand il lui a promis un règne éternel. Le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Une autre hérédité dont on parle beaucoup dans la Bible, c'est l'hérédité d'Adam. L'influence d'Adam dans l'hérédité, c'est peut-être le plus important mentionné dans les épîtres doctrinales du Nouveau Testament. Quand on parle d'Adam, par exemple dans Romains 5, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la crucifixion de Christ, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc Adam a été l'origine de beaucoup de maux héréditaires dans le monde. Pourtant, il n'a pas été créé pour cela, il n'a pas été créé pour pécher, ni pour être séparé de la présence de Dieu, il n'a pas été créé pour mourir. Ces choses sont arrivées de son propre choix, en quelque sorte, et étaient héréditaires pour l'humanité entière. Il a entraîné toute sa descendance dans le monde entier et à travers les siècles, dans une hérédité vraiment implacable. Comme il est encore expliqué dans Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Heureusement que Dieu, dans sa bonté, a voulu qu'il y ait une solution à ce problème d'hérédité par son Fils. Comme le dit le verset suivant, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est appelé le dernier Adam. Et il est dit dans 1 Corinthiens, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, mais le second est du ciel. Alors, il y a dans la Bible beaucoup de textes concernant des bénédictions et des malédictions qui sont transmises de génération en génération. Et surtout l'Ancien Testament mentionne que Dieu bénit ou maudit sur plusieurs générations et nous avons parfois du mal à concevoir ces textes. Il y a une parole de Jérémie dans une prière qu'il adresse à Dieu dans Jérémie au chapitre 32 qui nous interpelle. Il dit « Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération. » Là, nous disons « Amen, Alléluia, ça c'est magnifique. Hein » Jusque-là, on trouve ce verset merveilleux. Mais une fois qu'on lit plus loin, il est dit « Tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. » Alors là, c'est quand même difficile à concevoir et à accepter. Et il faut comprendre ce verset à la lumière encore de ce qui suit. Lorsque Jérémie dit « Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Si nous consultons une concordance, nous trouverons une longue liste, surtout dans l'Ancien Testament, où on parle de bénédictions et de malédictions qui se perpétuent sur plusieurs générations. Et ces textes sont parfois difficiles à comprendre. Les théologiens parlent de l'arbitraire de Dieu. Et il ne faut jamais oublier que Dieu fait ce qu'il veut, mais ce qu'il veut faire est toujours juste. Nous, on voit l'injustice. Mais Dieu est juste par définition. Alors si Dieu bénit plusieurs générations, c'est parce qu'il sait que plusieurs générations vont le suivre. Et s'il maudit plusieurs générations, c'est parce qu'il sait que plusieurs générations ne vont pas le suivre. Et il y a un exemple remarquable sur cette hérédité à travers plusieurs générations qui nous est donnée par Ésaü. Ésaü qui a produit dans sa descendance la dynastie des Hérodes, qui étaient des rois maudits. L'histoire commence dans Genèse 25, où se trouve l'histoire des deux fils jumeaux d'Isaac, qui était fils d'Abraham, et de sa femme Rebecca. Ils s'appelaient Jacob et Ésaü. L'histoire est très ancienne, se passe avant la loi de Moïse. Mais les croyants à l'époque attachaient une grande importance au droit d'aînesse. Et Ésaü était le premier-né, et en plus le préféré du père. Donc tout le désigne pour avoir une grande et belle postérité qui était une chose importante dans la conception des gens à l'époque. Malheureusement, le destin en a décidé autrement et il est dit dans Romains 9 que Dieu a aimé Jacob et qu'il a haï Ésaü. Alors là aussi, certains trouveront que Dieu fait du favoritisme. Pourtant, il n'en est rien, parce que Dieu se prononce ici sur une hérédité réelle qui va se prolonger dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, jusqu'aujourd'hui. Déjà avant la naissance, Dieu avait dit à Rebecca que deux nations sont dans ton ventre, deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous connaissez l'histoire. Un jour, Ésaü, revenant de la chasse, il sent une odeur merveilleuse qui le met à saliver, parce que Jacob préparait un plat de lentilles rôties aux petits oignons. Ça sentait bon. Ça devait être délicieux. Alors, il ne tenait plus. Il dit à Jacob, « Laisse-moi manger de ton roux, car je suis fatigué. » Et Jacob, en bon commerçant, lui dit, « Tu me vends ton droit d'aînesse et je te donne mon plat de lentilles. » Donnant, donnant. Alors le marché est conclu. Ésaü choisit la nourriture terrestre plutôt que la bénédiction divine. Et c'est pourquoi dans l'épître aux Hébreux, Ésaü sera appelé le profane. C'est-à-dire celui qui n'aime pas les choses sacrées. C'est le profane. Il dit au chapitre 12, veillez à ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Alors, cet attachement à ce qui est éphémère se verra chez tous les descendants d'Ésaü. Ce sont les Édomites, les Idumiens. Des siècles plus tard, quand Nebuchadnezzar voulait envahir Jérusalem, ces gens-là applaudissaient. Ils applaudissaient Nebuchadnezzar pour l'encourager à avancer. Ils étaient éblouis par la grandeur de la Perse. Ils se tiendront au carrefour des routes pour encourager l'envahisseur cruel. Avec un slogan, et c'est écrit dans le psaume 137, les enfants d'Édom disaient « Rasez, rasez Jérusalem jusqu'au fondement ». Ici, l'échange du droit d'aînesse contre le plat de lentilles, c'est la ville de Dieu contre les fastes, la grandeur de Babylone. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons de tristes exploits d'une dynastie de rois appelés Hérode, tous Édomites, descendants d'Ésaü. établi comme roi par le Sénat de l'Empire romain dans la région. La Bible nous parle de plusieurs membres de cette famille, dont quatre importants, quatre Hérodes, dont l'existence est largement confirmée et commentée par les historiens de l'époque, comme Joseph. C'est des rois maudits. Il y a le premier, c'est Hérode le Grand, qui est bien connu pour le massacre des innocents. C'est le roi dont il est question dans Matthieu au chapitre 2, après la naissance de Jésus-Christ. Comme il avait appris la naissance du roi des Juifs, il a ordonné le massacre de tous les nouveaux-nés afin d'être sûr de ne donner aucune chance à Christ, pour lui-même s'assurer du trône. C'était son plat de lentilles, de profane qu'il était contre Jésus, Dieu lui-même venant sur terre, la bénédiction divine. Et il va mourir quelques jours après d'ailleurs. Les historiens le décrivent comme un grand bâtisseur. On lui attribue la ville de Massada au sud de Jérusalem. Ceux qui ont visité Israël ont certainement visité cette ville, dont on peut encore visiter la construction d'Hérode, qui avait une réserve d'eau égale à 15 piscines olympiques. Aujourd'hui, on peut encore voir les ruines. C'est lui aussi qui avait reconstruit le temple de Jérusalem en agrandissant l'esplanade par un mur de soutènement qui est encore intact. C'est le mur des Lamentations. Mais l'histoire lui attribue beaucoup de massacres, comme le massacre des rabbins. Plusieurs membres de sa famille, sa première femme Marianne et plusieurs de ses fils, ainsi que toute tentative d'opposition aboutissait toujours par des massacres. Alors voici son successeur pour la Galilée, c'est Hérode Antipas. On le trouve un peu plus loin dans l'Évangile, dans Marc au chapitre 6. C'est le digne fils du premier. Jésus l'avait traité de renard. Et il s'est rendu coupable du meurtre de Jean-Baptiste. Vous vous souvenez de l'histoire, là aussi, Hérode vivait avec Hérodias, qui était la femme de son frère Philippe, qui était aussi un autre Hérode. Jean-Baptiste lui avait fait ce reproche, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Et Hérodias le détestait à cause de cela, et Hérode l'avait mis en prison. Et lors de la fête d'anniversaire, Hérode est émerveillé de voir danser Salomé, la fille d'Hérodias, sa propre nièce, et lui dira « Donne-moi ce que tu veux, jusqu'à la moitié de mon royaume, je te le donnerai. » Alors la fille demande conseil à sa mère, Hérodias, qui veut toujours se venger. Elle demande que la tête de Jean-Baptiste soit servie sur un plateau. Hérode n'a pas pu faire marche arrière, c'était son honneur, c'était son plat de lentilles, troqué contre le divin, le prophète, celui que Jésus a appelé le plus grand des prophètes. Alors combien cette phrase de Christ devrait nous faire réfléchir ? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Combien de gens sont prêts à faire des compromis graves, pour avoir la notoriété, pour avoir la richesse ? Certains sont prêts à vendre leur âme au diable. Trois ans après, Jésus sera arrêté et après parution au Sanhédrin, qui est le tribunal juif, Jésus est entendu par la juridiction de Pilate, qui le renvoie à la juridiction d'Hérode. Et il est dit dans Luc 23, Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. On a souvent vu des gens s'associer pour faire le mal, certainement en politique. Cette amitié ne va pas durer. Les historiens racontent comment cet Hérode a obtenu la méfiance de l'empereur Caligula, qu'il a exilé en Gaule, dans un village dans les Pyrénées, où il sera suivi par Hérodias encore, et puis on perdra sa trace. Et la triste dynastie des Hérodes est contenue dans Acte 12, avec un troisième Hérode. Hérode Agrippa Ier, qui est donc le petit-fils d'Hérode le Grand, tout aussi cruel. Et les premiers chrétiens vont souffrir avec lui. Il est dit dans Acte 12, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Mais ça va mal tourner pour lui, parce que Dieu va l'arrêter dans sa profanation. Pierre sera miraculeusement sorti de prison par un ange, alors qu'il était gardé par 16 soldats. Et quand Pierre sera libéré, Hérode va questionner les 16 soldats. Et ces hommes n'avaient aucune explication. Comment cela a pu arriver? Et il va les exécuter, tous les 16. Mais la fin du chapitre 12 donnera le dernier mot à Dieu. Lorsqu'il nous est dit que le peuple s'écria, c'est la voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira, rongé de vers. L'historien Joseph décrit tous les détails de cet événement et le rend vraiment historique, ce qui est étonnant. Hérode a laissé dire, il a laissé faire, il a acquiescé, qui ne dit mot consent. Et on peut dire Hérode pêche par omission. Le quatrième Hérode nous semble plus sympathique, mais il est tout aussi triste quant à son engagement envers Dieu. Il se trouve plus loin dans les actes, dans actes 25 et 26, c'est Hérode Agrippa II. Le dernier chapitre des actes nous montre que Paul est prisonnier. Il passe une première audience et Paul demande à être entendu par le tribunal de César parce qu'il est romain, de nationalité. Et lors de la deuxième audience au tribunal romain à Césarée, il est interrogé par Festus, le gouverneur, et par Hérode Agrippa II. Et il y a aussi sa sœur Bérénice, qui est amie personnelle de l'empereur Titus. Et il y en a des intrigues dans l'histoire. En tout cas, Paul peut s'exprimer longuement sur sa défense. Et il rend témoignage avec beaucoup de conviction. Et Hérode va même être étonné. Et il dira à Paul, « Tu vas bientôt me persuader à devenir chrétien ?» Paul répondit, « Ah, que ce soit bientôt ou tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception bien sûr de ces livres. Presque persuadé, tu vas bientôt me persuader. » C'est une phrase terrible quand même. Être presque sauvé, presque converti, avoir presque reçu l'Esprit, presque délivré de la malédiction d'Ésaü. Et c'est une triste réalité que on constate encore aujourd'hui partout. Parce que être chrétien, ce n'est pas être chrétien de loin. Les conversions au sens biblique, ce sont de vraies transformations. C'est de vraies transformations. C'est même une transformation d'identité. Alors Hérode, Agrippa II, va jouer un rôle important pour réprimer la révolte des Juifs qui, à partir de 66 après Christ, vont être très actifs à Jérusalem et avec l'aide des Romains, en l'an 70, Jérusalem sera brûlée et le temple sera complètement détruit par les Romains. Agrippa II va mourir quelques années après, en l'année 90, et ce sera la fin de la dynastie des Hérodes. À nous de prendre des leçons de toutes ces histoires. Pour nous chrétiens, Christ est notre délivrance de toute malédiction. Certains chrétiens pensent qu'ils ne sont pas encore délivrés des liens ancestraux. Certains croient avoir subi un mauvais sort qui les menace durant des années. Certains voient aussi le diable partout et attribuent tout au diable. Il doit être content d'avoir autant d'importance. J'ai même entendu que certains évangélistes proclament que tout chrétien a besoin de délivrance des liens ancestraux et démoniaques. Et nous devons quand même faire attention de ne pas aller plus loin que ce qui est écrit et demeurer dans la doctrine de Christ, parce que de Jean dit que celui qui va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils, ni au-delà, ni en deçà. Alors, les gens se basent sur Daniel 9, où Daniel se repent des péchés de ses pères. Il n'y a pas de mal, mais il ne faut pas sous-estimer le rôle du sacrifice de Christ dans la délivrance. Daniel n'avait pas connaissance du sacrifice de Christ, puisque ça n'avait pas encore eu lieu. Alors certains mentionnent par exemple la pauvreté comme étant une malédiction qui se transmet de génération en génération et donc il faut briser le lien. Et pourtant, Paul dit qu'il a appris à vivre dans la disette. Combien le texte nous montre que c'est plutôt la richesse qui est une malédiction. Alors dans une interview, un évangéliste a dit que la croix n'est pas suffisante pour délivrer. Il faut un ministère puissant, un ministère violent, car Satan est violent et sans violence, il ne comprend pas. Alors, je crois que c'est important de revenir à ce que la Bible dit et de s'en tenir, non pas à ce que les hommes disent, mais à ce que la Bible dit. Que dit la Bible concernant la victoire de Christ obtenue à la croix ? Que dit la Bible concernant la réalité d'une vraie conversion? Eh bien, nous lisons dans 2 Corinthiens 5, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, n'imputant pas aux hommes leurs offenses. » Et dans Romains 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et dans Jean 8, « Si le Fils vous affranchit, c'est-à-dire si Christ vous rend libre, vous serez réellement libre. » pourrait encore ajouter Galates au chapitre 3, qui est magnifique. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. » Il est devenu malédiction pour nous, à notre place. Et la malédiction est devenue bénédiction. Et Romains dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Christ. Ne vous regardez pas comme étant sous la malédiction du diable. Regardez-vous comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, parce que c'est ce que vous êtes par le sacrifice de Christ. Le salut nous est acquis. Bien sûr, la parole de Dieu nous invite à ne pas négliger ce salut qui nous est donné et d'y travailler, travailler à votre salut. Ça veut dire progresser. Votre acquis doit se manifester de progrès en progrès. Et il faudra certainement souvent revenir à la croix pour se rappeler à nous-mêmes les acquis de Christ afin de progresser de victoire en victoire et de grandir dans la sanctification. Mais le sacrifice de Christ est suffisant. Le sacrifice de Christ est nécessaire et suffisant pour briser toute chaîne d'hérédité, toute malédiction, tout lien démoniaque. J'ai noté cette belle phrase de Fernand le Grand. Il n'y a pas de chaîne, fût-elle forgée au fond de l'enfer, que Jésus-Christ ne puisse briser. Magnifique, hein ? Et c'est vrai, nous voulons le croire. Alors je termine par un dernier exemple. Il y a l'exemple de Saul de Tarse qui devient Paul. Alors avant sa conversion à Jésus-Christ, Paul était sur la route de Damas, vous vous souvenez, il s'appelait Saul de Tarse. Qui était-il? Comment se présente-t-il? Il va se présenter lui-même dans Philippiens et il dira « Moi, circoncis, le huitième jour de la race d'Israël, la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » On pourrait dire, quelle hérédité magnifique! Quelle hérédité magnifique! Il y a de quoi se vanter. Et il dira dans les Actes, au chapitre 22, « Je suis juif, né à Tarse, en Sicile. J'ai été instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Étant plein de zèle pour Dieu, j'ai persécuté à mort cette doctrine chrétienne, liant et mettant en prison hommes et femmes. » Quelle belle hérédité quand même. C'est une hérédité formidable. Et pourtant, cette hérédité avait un problème. Il y avait un problème avec cette hérédité. Un problème lié à son hérédité, comme une malédiction. Et il dira encore au chapitre suivant, dans Actes 23, le verset 6, « Je suis pharisien, fils de pharisien. » Ah, là, il y a un problème. Parce que dans Matthieu 23, Christ a maudit les pharisiens. Il les a maudits gravement. Il a dit, « Malheur à vous, pharisiens, malheur à vous, pharisiens et scribes. » Ça se trouve dans Matthieu 23. 8 fois, Jésus prononcera cette malédiction, « Malheur à vous. » Alors, comment alors cet homme pharisien et cet homme violent a-t-il pu devenir ce grand apôtre qui évangélisera jusqu'à Rome et peut-être aussi en Espagne. Il aurait même mis pied en Gaule, d'après certains écrits. Et comment a-t-il pu écrire 1 Corinthiens 13, le plus bel hymne à l'amour chrétien qu'on n'a jamais pu écrire? Comment a-t-il pu être un autre homme avec une autre identité, totalement différent? Et sur le chemin de Damas, il a rencontré Jésus-Christ. Les écailles lui sont tombées des yeux. Il subit une conversion radicale. Son hérédité est brisée, une fois pour toutes. Son ancienne identité est désormais regardée comme de la boue. Tous ses avantages héréditaires qu'il avait, il regarde comme de la boue. Et il le dit dans Philippiens 3. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je regarde même toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je suis devenu une autre personne. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Pour Paul, être en Christ, c'est la vraie liberté. C'est la vraie délivrance, c'est la vraie transformation. Et il dira encore, je me laisserai asservir par rien, parce que c'est à la liberté que Christ m'a appelé. Il dira à Tite, il ne faut pas s'attacher à des fables, le jeune pasteur Tite. Et il lui dira, évite la discussion folle, ça n'amène nulle part. Évite les généalogies. On a mieux à faire que chercher des arbres généalogiques. C'était tout son message au roi Agrippa II, lorsqu'il lui dit, je n'ai voulu qu'une chose, prêcher la repentance et la conversion. Parce qu'il n'y a que ça qui délivre vraiment. Parmi les nombreuses victoires obtenues par Christ sur la croix, il y a la délivrance des malédictions. Christ transforme malédiction en bénédiction. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Non. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Voici, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Non seulement nous sommes délivrés de toute hérédité, mais nous avons reçu une nouvelle hérédité en Christ, un nouvel héritage. Nous serons co-héritiers de Christ, ça veut dire Christ va partager son héritage avec nous. Et tout cela grâce à son sacrifice dans lequel nous avons cru, que nous avons accepté pour nous personnellement. Il y a un chant qui me venait à l'esprit, que je vous partage pour terminer. De la croix, la grâce coule. Vous connaissez ce chant? On peut le chanter après, si vous le connaissez. De la croix, la grâce coule comme un fleuve, constamment. Oh, venez, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oui, pour tous, la grâce abonde. À tous, le ciel est ouvert, pour tous les pécheurs du monde. Le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi, la grâce déborde. À cette heure, en ce moment, tout cela, grâce au mérite de Christ sur la croix, à nous d'y croire fermement, à nous d'y obéir, à nous de le prendre pour nous personnellement et de l'expérimenter avec la grâce du Seigneur. Prions. Ô Seigneur, merci pour la richesse de ta parole. Merci, Seigneur, pour l'efficacité de ton sacrifice sur la croix. Merci pour l'abondance de ta grâce, de la croix. La grâce coule comme un fleuve constamment. Seigneur, nous venons maintenant dans ta présence et nous déposons à tes pieds tous nos fardeaux, nos interrogations, Seigneur, nos doutes, nos incompréhensions. Nous voulons nous humilier devant toi. Tu vois, Seigneur, tous les intérêts que nous avons, nos intérêts bien souvent inutiles, que nous devrions regarder comme de la boue. Pardon, Seigneur, pour nos absences, nos négligences, nos erreurs de pensée et de parole, nos erreurs dans les actes. Merci parce que tu as tout accompli pour notre pardon. Ça t'a coûté, Seigneur, cher. Tu as donné ta vie, ton sang. Tu as souffert pour notre pardon, nos délivrances, notre réconciliation avec Dieu, notre réception de ton esprit. Ô Seigneur, tu n'as pas changé, tu es resté le même. Encore en ce moment, tu sauves. Aujourd'hui encore, tu délivres, tu libères, tu transformes, tu guéris, tu brises les chaînes. Oui, Seigneur, nous te disons merci de tout notre cœur, que chacun d'entre nous soit guéri de son passé par tes meurtrissures, que nous soyons délivrés de notre héritage. Fais de nous ce que tu as promis, Seigneur, des gens nouveaux. Tu fais toutes choses nouvelles. Brise, Seigneur, tous les liens diaboliques. Rends-nous libres de la vraie liberté. Nous ne voulons pas être asservis par quoi que ce soit. Rends-nous libres pour t'adorer, te servir, te proclamer. Nous croyons, Seigneur, en l'efficacité de ton sacrifice. Il était nécessaire, il est suffisant. Ô Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Que ton nom soit glorifié, sois béni, Seigneur. Nous t'avons prié en ton nom. Merci, Seigneur. Amen.